carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Didier Bernheim, vous êtes avocat et président d'honneur de la Maison des artistes. Vous avez acquis une expérience unique dans le domaine des arts graphiques et plastiques et vous êtes spécialisé dans le droit des artistes dans le domaine de l'image. Vous avez prononcé mercredi 4 février 2009 à l'Académie des Beaux-Arts une communication au cours d'une séance publique sur l'originalité dans les arts plastiques et la protection de l'art contemporain. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de droit et d'art contemporain. Didier Bernheim, qu'est-ce qui a inspiré votre communication à l'Académie des Beaux-Arts sur l'originalité dans les arts plastiques ?
D'abord, cette question de l'originalité m'est posée, je dirais presque quotidiennement, devant les tribunaux. Et son approche est assez difficile pour des raisons culturelles que j'ai expliquées d'ailleurs dans la conclusion de ma communication. Nous sommes dans un pays de culture littéraire. Le droit, c'est le domaine du verbe. Et il est souvent très difficile de faire comprendre les images dans le domaine judiciaire. Ça, c'est la première approche de la question. Et il se trouve qu'il y a eu, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, une exposition Cézanne Pissarro, dans laquelle on présentait un tableau de Cézanne, qui est, pour parler très rapidement, une copie d'un tableau de Pissarro, mais en réalité qui n'est pas du tout une copie, qui est, alors pour employer le langage de l'art contemporain, une recréation par Cézanne. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on regarde ces deux tableaux, à première vue, et pour la plupart des spectateurs, les deux tableaux sont identiques. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'être un expert pour reconnaître un Pissarro et un Cézanne. Et la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qui fait ? Comment Cézanne a-t-il transformé ce Pissarro en Cézanne ? Et ça, on est au cœur de l'apport personnel de l'auteur. Et donc, c'est ce qui m'a inspiré finalement cette communication. Et je me suis aperçu, je l'ai montré au cours de la communication, qu'en réalité, ce qui était essentiel, c'était pas tellement la façon de peindre de Cézanne, mais c'était la composition. Il a modifié des détails qui n'apparaissent pas à première vue et qui changent complètement la perception générale du tableau.
Qu'est-ce qu'une œuvre d'art d'un point de vue juridique ?
Alors la question posée comme ça est assez délicate. La notion d'œuvre d'art n'est définie en fait que dans le droit fiscal. En droit d'auteur, on parle d'œuvre de l'esprit. Donc le code de la propriété intellectuelle définit un certain nombre d'œuvres au sens large du terme qui entrent dans la catégorie des œuvres protégées. Et en réalité, le texte est très général. Il nous dit que la création comme la mise en forme d'une idée.
Didier Bernheim, vous êtes président d'honneur de la Maison des artistes qui a été créée en 1952. Et est-ce que vous pourriez nous présenter les missions de cette Maison des artistes ?
Alors, la Maison des artistes, oui, c'est une très bonne question, a une double mission. C'est une association, loi de 1901, et elle a donc d'abord une mission associative, qui est une mission d'entraide et de solidarité entre les artistes. Et parce qu'elle remplissait cette mission depuis 1952, lorsque la loi créant le régime de sécurité sociale des artistes a été instituée en 1978, déjà avant avec la loi Malraux, mais en 1978, le législateur a décidé que le régime des artistes plasticiens d'un côté et le régime des auteurs, écrivains, musiciens, chorégraphes de l'autre côté serait géré par des organismes agréés. On a créé donc à l'époque l'AGESA qui s'occupe des écrivains et des musiciens, entre autres, et la Maison des artistes qui existait déjà a été agréée pour gérer le régime des plasticiens. Et donc, vous avez une double mission, hein, qui est une mission d'intérêt public en tant qu'organisme agréé pour la gestion du régime de sécurité sociale et une mission associative d'entraide qui organise notamment des consultations juridiques dont je m'occupe pour les adhérents de l'association.
D'accord, donc deux choses distinctes.
Alors, c'est pas deux choses distinctes, c'est deux missions distinctes. Et sachant que c'est bien l'association qui a été agréée et non pas un organisme différent. Et à l'heure actuelle, la sécurité sociale des artistes doit compter un peu plus de 40 000 inscrits, assujettis ou affiliés. Oui, ce que j'ai indiqué à un moment dans ma communication, parce que j'ai voulu absolument ne pas m'en tenir aux questions de droits d'auteur, mais aborder les droits sociaux de l'auteur, puisque la notion d'œuvre d'art est en fait la seule définition qui existe dans notre droit, c'est une définition fiscale. Et donc, ce que j'ai indiqué, c'est que d'une part, les règles actuelles datent de 1995 en ce qui concerne la fiscalité, ce qui est déjà un peu ancien. En plus, ces règles sont appliquées de façon très restrictive, y compris d'ailleurs par les juridictions, pas seulement par les fonctionnaires de l'administration. Et il serait souhaitable qu'il y ait un assouplissement. Parce que d'un côté, on s'efforce de faciliter l'activité d'entrepreneur avec cette fameuse notion d'auto-entrepreneur. Et de l'autre côté, on continue d'avoir des obstacles parfois assez absurdes à l'activité d'auteur. J'ai donné un exemple d'un procès qui dure maintenant depuis 6 ans devant un tribunal administratif où l'administration reproche à un peintre de ne pas avoir réalisé entièrement l'œuvre de sa main, tout simplement parce qu'il achetait des tableaux déjà peints et qui peignait par-dessus, parce que ça lui coûtait moins cher que d'acheter des toiles vierges. On est vraiment dans des situations totalement absurdes. Voilà, et ça, il faudrait quand même que l'administration revoie un peu sa doctrine sur ces questions.
Alors, quels sont les principes auxquels, justement, doit répondre une œuvre d'art, les principes juridiques? Il y a des grands principes que vous venez plus ou moins d'évoquer, mais...
Alors, les principes sont très généraux, hein, puisque la loi nous dit que les droits des auteurs sont protégés par la loi sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, quelle qu'en soit la destination et quel qu'en soit le mérite. Avec cette dernière définition, quel qu'en soit le mérite, qui interdit donc toute appréciation critique de la part du juge. Donc c'est une définition extrêmement large.
Est-ce qu'elle suffit ?
Ah oui, elle suffit.
Elle suffit largement. Alors, elle englobe tout.
Se pose la question, évidemment, qui était l'objet de ma communication, de la protection de l'idée. Mmh. L'idée n'est pas protégée. On considère que les idées sont de libre parcours et que personne ne peut se les approprier. Donc ce qui est protégé, c'est la mise en forme de l'idée. Même s'il y a un simple commencement de mise en forme de l'idée, mais il faut une mise en forme.
Et ce principe des idées sont de libre parcours, ça pose un problème particulier pour l'art conceptuel ou...
Ça pose un problème particulier pour l'art conceptuel, puisque dans l'art conceptuel, ce qui est primordial, c'est l'idée plus que la forme. La forme étant même parfois, pour certains artistes, dénuée de toute importance, de tout intérêt. Et là, effectivement, il y a une difficulté. Ceci étant, quand j'ai préparé cette communication... J'ai examiné un peu tout ce que l'on peut trouver dans le domaine de ce qu'on appelle l'art contemporain. Là, il faudrait encore
définir
de longues discussions pour définir l'art contemporain, puisque quand on regarde les ouvrages spécialisés, la plupart commencent avec Marcel Duchamp, qui est quand même, pour un contemporain, mort depuis une bonne quarantaine d'années et dont l'œuvre emblématique date de 1914. Dans les ouvrages consacrés à l'art contemporain, il y a une quantité d'œuvres. Par exemple, on parle d'Yves Klein, etc. Tout ça, évidemment, ne pose pas vraiment de problème de protection parce qu'il y a mise en forme. Finalement, les œuvres pour lesquelles on n'a pas de solution sont assez marginales en réalité.
On a un exemple, par exemple, s'il y a un litige connu qu'on
peut parler. Justement, il n'y a pas de litige parce que souvent, ce sont des questions dont je vois d'ailleurs pas comment elles pourraient aboutir à des litiges sur le plan judiciaire. Par exemple, vous avez des artistes qui font un contrat avec un client, qui réalise lui-même l'œuvre, mais sur l'idée de l'artiste. J'avoue que je ne vois pas très bien comment tout ça pourrait déboucher sur un conflit au niveau judiciaire. Donc on est vraiment dans des questions tout à fait marginales. Pour le reste, alors la question qui se pose et que j'ai évoquée, c'est que on protège la forme, on ne protège pas l'idée. Alors, il est évident que dans bien des cas, cela aboutit à une dénaturation de l'œuvre, hein, puisque lorsque l'idée prime sur la forme et qu'on ne protège que la forme, évidemment, on ne protège pas l'œuvre telle que l'artiste la conçoit.
Est-ce que l'idée d'une œuvre peut se transformer en monopole pour son auteur? Vous avez répondu à ça lors de la communication.
Ça n'est pas possible puisque précisément on ne protège pas l'idée.
Inscrit en droit.
Non, c'est inscrit à contrario, si on veut, dans le droit, puisque on nous dit, la loi nous dit que l'œuvre est protégée du fait de la création. La création elle-même implique la mise en forme dans la définition juridique. Mais il n'y a pas une règle qui dit les idées ne sont pas protégées, dans la loi en tout cas. Oui, je voulais revenir à l'exemple de Christo.
Oui.
Sur justement la question de la protection des idées. Il y a eu deux arrêts concernant Christo, l'emballage du Pont-Neuf. Un premier qui a dit que la mise en forme de l'emballage faisait l'objet de la protection du droit d'auteur, mais que par contre, l'idée générale de l'emballage n'était pas protégeable. Ça, c'est le deuxième arrêt. Et effectivement, d'ailleurs, quand on aborde la question de la protection de l'idée, on s'aperçoit que on revient vers la notion d'invention. À partir du moment où on veut protéger l'idée, automatiquement se pose la question de l'antériorité. Or, précisément dans le droit d'auteur, l'antériorité n'est pas une notion du droit d'auteur, c'est une notion qui relève de la propriété industrielle. Et quand on commence à vouloir rechercher s'il y a une antériorité dans le domaine des beaux-arts, il est évident qu'on trouve toujours une antériorité. Il n'y a pas d'invention dans les beaux-arts. Et notamment en ce qui concerne Christo, bon, je me suis amusé à faire une recherche et j'ai trouvé que Man Ray avait déjà fait des empaquetages dans les années 20, c'est-à-dire bien avant Christo. Quand on étudie par exemple le cubisme ou des œuvres dérivées du cubisme, c'est pareil. Moi j'ai trouvé des premières formes tout à fait de façon étonnante, inattendue chez Chagall au début du XXe siècle. Et puis ensuite, les mêmes formes se retrouvent tout au long du XXe siècle dans différentes œuvres. Donc il y a une continuité, il n'y a pas vraiment d'invention, il n'y a jamais vraiment d'invention dans le domaine des beaux-arts.
Le critère de l'originalité de l'œuvre, alors c'est un critère solide celui-là
Non, c'est un critère...
Au contraire, qui porte aussi à la discussion, à l'appréciation.
C'est un critère subjectif. D'ailleurs, il a été présenté comme ça par Desbois dans son traité de droit d'auteur, puisque le début de son traité de droit d'auteur est consacré justement à la différence entre la nouveauté et l'originalité. Il explique que la nouveauté, c'est du domaine de la propriété industrielle, c'est un critère objectif, pardon, et l'originalité est un critère subjectif. Mais l'originalité, elle est aujourd'hui, et d'ailleurs même chez Desbois, définie comme l'expression de la personnalité de l'auteur. Ce qui ne simplifie pas
encore
du tout les choses. Parce que... C'est un critère qui est aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui, mais qui fait l'objet d'une polémique pour une raison simple. On est dans un domaine, le domaine du droit en principe, qui est le domaine des concepts précis, notamment dans le droit pénal. Or, le droit d'auteur a un aspect pénal puisque la contrefaçon est sanctionnée pénalement. Et un des éléments clés du droit d'auteur, c'est précisément cette notion subjective d'originalité ou d'apport personnel de l'auteur, qui est tout de même très ambiguë. Alors qu'il y a une possibilité de sanction pénale. L'exemple que j'ai donné lors de ma communication, c'est celui de la Joconde. Hein. Je peux, moi en tant qu'avocat, si j'ai la tâche d'expliquer en quoi consiste la personnalité de l'auteur, je peux produire un ouvrage extrêmement savant sur Léonard de Vinci, ça ne donnera pas l'image de la Joconde. Donc on est dans un domaine qui est assez subtil et difficile.
Depuis quand théorise-t-on le droit d'auteur, justement, en droit français et
Je ne suis pas un professeur
précise
de droit.
Oui, voilà, mais globalement,
disons,
pour nous éclairer, nous.
Le grand moment, c'est la loi de 1957 sur le droit d'auteur, mais on peut remonter au début du XXe siècle avec les lois, enfin les premières règles sur la propriété industrielle, et puis on peut remonter même avant.
Le droit fiscal a permis justement de définir mieux l'œuvre d'art ou sa défense.
Non,
il y a eu une interférence du droit fiscal sur le...
Non, il n'y a pas d'interférence du droit fiscal sur le droit d'auteur.
Ouais.
Il y a une interférence du droit d'auteur sur le droit fiscal, mais compte tenu de la règle d'autonomie du droit fiscal, les définitions du droit fiscal restent très, très indépendantes, si j'ose dire.
Est-ce que la définition de l'œuvre d'art, justement, en droit fiscal, c'est pas tout à fait la même ?
C'est une définition beaucoup plus restrictive, pour une raison très simple, pas dire que les choses soient simples, mais les règles fiscales dont bénéficient les artistes sont des règles dérogatoires au droit commun. Or, le principe, c'est que les règles dérogatoires sont d'interprétation restrictive. Ce qui veut dire que les textes définissant l'œuvre d'art, bon, c'est l'article 98A de l'annexe 3 du Code général des impôts qui définit les œuvres d'art, il est interprété de façon limitative et non pas extensive. Donc, ça aboutit à parfois des choses un peu absurdes, il faut le dire, hein, puisque souvent les fonctionnaires des impôts s'en tiennent au pied de la lettre. Et c'est un sujet de difficulté, hein, parce que, comme je l'ai expliqué, moi je donne en gros un millier de consultations par an. 20% sont des consultations de droit d'auteur et 20% des consultations de fiscalité, ce qui n'est pas normal. Hein. Il n'est pas normal que la fiscalité préoccupe les artistes autant que le droit d'auteur.
Et à votre avis, est-ce que justement les lois actuelles sont adaptées aux pratiques de l'art contemporain, à l'évolution des technologies ?
La loi, elle a le mérite d'être extrêmement générale. Donc la jurisprudence, et le rôle de la jurisprudence, hein, d'adapter l'interprétation du droit à l'évolution des idées et des pratiques. Et j'ai le sentiment qu'elle essaye de... Enfin, la jurisprudence essaye de coller aux pratiques. On l'a vu dans l'affaire de la porte du paradis.
Vous pouvez revenir sur cette affaire ?
Alors, l'affaire...
Vous nous la présentez ?
Oui, bon, c'est une affaire qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation au mois de novembre 2008, donc très récemment, dont on a beaucoup parlé dans les revues juridiques, notamment mon confrère Edelman. L'affaire se présente de façon suivante. En 1995, si je me souviens bien, l'hôpital psychiatrique de Villevrard organise une exposition d'art contemporain dans un pavillon désaffecté, qui est le pavillon des alcooliques. Et un jeune artiste, qui à l'époque doit avoir 25 ans, choisit de créer une œuvre qui consiste à inscrire au-dessus de la porte des toilettes du dortoir des alcooliques de l'hôpital psychiatrique le mot « paradis ». Donc, œuvre fondamentalement conceptuelle qui prend son sens en raison de la symbolique du lieu, bien entendu.
Et du passage d'Artaud aussi, de
alors,
Camille Claudel,
sûr, bon,
on y pense.
À Villevrard, hein, c'est là que Camille Claudel a été interné, c'est là qu'Antonin Artaud a été interné. L'endroit où était créée cette œuvre est assez sinistre. Et bon, effectivement, on peut imaginer, hein, le dortoir des alcooliques, ce qui a pu se passer dans cet endroit. Donc la porte des toilettes présentée comme la porte du paradis, ça évidemment... un sens, bon, qu'on peut interpréter de différentes façons. Ça peut être un peu de l'humour noir aussi. Et quelques années après, donc, cet artiste s'aperçoit qu'un photographe assez réputé a utilisé cet emplacement pour le décor d'une photographie. Il fait un procès et le débat a porté évidemment sur justement le caractère conceptuel de l'œuvre, la défense du photographe disant en fait cette œuvre n'a de sens que par l'endroit où elle est située, qui n'apparaît plus dans la photographie qu'on poursuit pour contrefaçon. Et en plus, bon, sa représentation, le mot paradis est très banal, c'est une typographie tout à fait ordinaire, et la porte elle-même n'est pas une création de l'auteur. Et là, la cour, le tribunal, puis la cour, approuvé par la Cour de cassation, s'attache à, d'une part, la réalisation matérielle du mot paradis et l'aspect esthétique de la porte.
Donc, à la forme.
Voilà, tout à fait à la forme, à l'aspect esthétique de la porte. Et donc, juge qu'effectivement, il y a eu contrefaçon. Alors, on a présenté cette décision comme une consécration de la reconnaissance de... du moins la protection de l'art conceptuel par le droit, ce qui n'est à mon avis pas du tout le cas, hein, puisque en fait la jurisprudence s'est attachée exclusivement à la forme et qu'elle a, à mon sens, dénaturé l'œuvre dans la mesure où ce qui était essentiel dans l'œuvre, c'était pas la forme, c'était l'idée, et peut-être même que la forme n'avait aucune importance. Je ne suis pas du tout certain que pour l'auteur de La Porte du Paradis, l'aspect esthétique de la porte ait eu un quelconque intérêt. Or, c'est ce que la jurisprudence protège. Donc on est dans finalement une jurisprudence très classique dont simplement on peut relever qu'elle admet l'originalité d'une œuvre extrêmement minimale, parce qu'en fin de compte, la porte c'est du ready-made, hein, et le mot paradis c'est tout de même, je dis ça sans aucun esprit critique, hein, simplement on est dans une forme d'expression extrêmement réduite. Donc on voit que déjà la jurisprudence est extrêmement ouverte à la protection de l'œuvre, hein, puisque elle n'exige pas finalement des conditions très draconiennes pour reconnaître l'originalité de l'œuvre, mais en même temps, elle ne reconnaît que la forme. Et à la limite, moi je dirais, je pense que ce n'est pas une décision satisfaisante. Parce que, bon, elle a donné raison à l'auteur, qui peut en être satisfait, mais elle a donné raison sur quelque chose qui n'a rien à voir avec son œuvre, en fait.
Et est-ce qu'au niveau européen, il y a, disons, une harmonisation, une convention, des débats actuels?
Oui, alors
il y a eu un grand texte en 2008,
surtout bon, sur le droit de suite, sur les droits d'exploitation. Des règles tendant à l'harmonisation, qui n'appellent pas de commentaires particuliers, bon, qui donnent lieu à des adaptations.
Il y a des grandes différences entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis.
Oui, entre l'Europe et les États-Unis, il y a une grosse différence parce que
visiblement au niveau européen, c'est à peu près pareil.
Au niveau européen, c'est pas absolument pareil. Bon, je vous donne un exemple. La directive dont vous parlez prévoit la possibilité pour les pays de créer une exception à la protection des droits d'auteur pour les œuvres qui sont destinées à être placées dans des lieux publics. Dans certains pays, on peut librement reproduire les œuvres qui sont placées dans les lieux publics. Je crois, sauf erreur de ma part, c'est le cas de la Suède, par exemple. Ce n'est pas le cas de la France. D'ailleurs, il y a eu la fameuse affaire Buren avec la place des terreaux, si je ne me trompe pas, à Lyon. Tout le débat sur les œuvres qui sont placées et destinées à être placées dans les lieux publics. En France, on ne peut pas reproduire librement une œuvre qui est placée dans un lieu public. Dans certains pays, on peut, mais ce ne sont pas des différences très fondamentales.
Donc vous évoquiez une plus grande différence entre le droit d'auteur aux États-Unis
et
en Europe.
Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les pays de copyright, hein, dans lesquels l'acteur principal, c'est le producteur et non pas l'auteur. L'auteur est un, je crois que c'est un de mes confrères qui a employé cette expression, un fournisseur de matières premières pour le producteur. Donc, une approche qui est très différente.
Et en Asie ?
Asie, écoutez, alors là, je suis...
C'est ma curiosité.
J'ai déjà bien du mal à connaître toutes les règles en France.
Non, mais s'il y a une conception de l'art, justement, de l'œuvre d'art différente, qu'il y a une protection du droit...
Je ne sais pas exactement ce qui se passe en Asie. Ce que je sais, si vous voulez, parce que j'ai pas mal d'affaires avec des problèmes de contrefaçon en Asie, je pense que des pays comme la Chine ou le Vietnam, progressivement, vont se plier aux règles du droit d'auteur. Peut-être pas de façon aussi stricte que nous, mais ils vont le faire parce qu'ils y ont intérêt de toute façon. Ils ont très bien compris que la valeur ajoutée, c'est la création. Ils commencent déjà à faire venir des créateurs chez eux pour avoir précisément des œuvres originales directement produites depuis la Chine ou le Vietnam. Et je pense qu'on arrivera, sinon à une uniformisation, probablement pas, mais en tout cas à des règles de protection comparables dans ces pays.
Merci Didier Bernheim.